J'aime encore bien la musique des Beatles et d'autres groupes des années 60. Mais il faut dire que je suis presque de leur génération. Parmi les nombreux succès de cette période, il y a le tube « Turn, Turn, Turn » en anglais, qui est presque entièrement tiré du livre de l'Ecclésiaste écrit par le roi Salomon et qui dit en français « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dans la vie, il y a un temps pour danser et un temps pour se lamenter. » Le chapitre 23 du livre du Lévitique parle des nombreuses fêtes qui étayent le calendrier religieux d'Israël. Je sais bien que j'en parle depuis longtemps, mais ce n'est pas facile à s'y retrouver. Alors, je vais les rappeler. C'était un temps mis à part et de durée variable. En Israël, on avait déjà le sabbat hebdomadaire, la fête de la nouvelle lune au début de chaque mois, la fête des trompettes le premier jour du septième mois, le jour des expiations ou Yom Kippour, le dixième jour de ce septième mois. Ensuite, la loi de Moïse ordonne trois fêtes annuelles appelées solennités ou rassemblements. La première est la Pâque, le soir du quatorzième jour du premier mois. Elle est immédiatement suivie de la fête des pains sans levain, qui commence le quinzième jour et dure sept jours. Et au début de celle-ci, le seizième jour, il y a la fête des premiers fruits. La seconde solennité est la fête des semaines, ou fête des moissons, ou encore jour des prémices, qu'on appellera plus tard Pentecôte, parce qu'elle est célébrée le cinquantième jour après la Pâque. Enfin, et en troisième lieu, on a la fête des tabernacles ou des récoltes ou des cabanes qui commence le quinzième jour du septième mois et dure sept à huit jours. Ces trois rassemblements étaient jugés suffisamment importants pour que tout adulte, homme capable de marcher et sans infirmité, devait se rendre à ces fêtes afin de se présenter devant l'Éternel au temple de Jérusalem. Toutes ces occasions de fête sont données aux Israélites pour qu'ils se reposent, se réjouissent et littéralement pour qu'ils fassent la fête, à une exception près, et celle-ci qui va être maintenant question. Je continue à lire dans le chapitre 23 du Lévitique. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le dixième jour de ce septième mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui n'humilierait pas son âme en ce jour-là sera exclue de son peuple. Et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos, au cours duquel vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez de repos. Le jour des expiations du Yom Kippour, ou Grand Pardon, a déjà été commenté en détail précédemment. Ici, ce qui ressort du texte est sa sévérité. À deux reprises, l'Éternel dit « Vous humilierez vos âmes ». Et il ne plaisante pas. Le deuxième point souligné ici, avec insistance, est le repos absolu. Même si le texte ne le dit pas explicitement, on sait aussi que ce jour très solennel de pénitence était accompagné d'un jeûne. Les Israélites étaient dans l'obligation de se repentir à cause de leur faute et leur culpabilité devant Dieu. Ceux qui violaient ces ordonnances l'humiliation et le sabbat étaient punis de la peine capitale. Qu'en est-il pour nous, qui sommes sous la nouvelle alliance? Pour les chrétiens, le jour des expiations est le vendredi saint qui commémore la mort du Christ. Mais on peut y ajouter sa résurrection, car par elle, Dieu déclare juste tous ceux qui placent leur confiance en lui et en lui seul, en s'humiliant sincèrement. L'apôtre Paul écrit « Il, Jésus, a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Je continue le texte du Lévitique. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le 1er jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. » Ici, on a les ordres de l'Éternel concernant la 3e solennité. Elle est célébrée le 15e jour du 7e mois, dès qu'Israël sera installé en Palestine. C'est une fête de reconstitution, une mise en acte afin que les nouvelles générations se souviennent de leur passé et du soin que l'Éternel a pris de leurs ancêtres. Même dans des conditions difficiles, Dieu veille et subvient aux besoins de son peuple, qu'il soit israélite ou chrétien qui suive le Christ. La fête des cabanes dure 7 jours pendant lesquels on célèbre la fin des boissons, une fois que les olives et les raisins ont été cueillis. À cette occasion, le peuple construit des huttes avec des branches en souvenir du temps où ses ancêtres avaient erré dans le désert, habitant sous des tentes. Le 8e jour est un sabbat et s'appelle la clôture, parce qu'il ferme cette semaine de célébration ainsi que le cycle des fêtes annuelles. Je continue le texte. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel, et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre culte. Il m'offrira à moi, l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu. Les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous offrirez lors de mes sabbats, à vos dons, aux sacrifices offerts pour accomplir un vœu ou volontairement. Ce texte exclut les ordonnances du chapitre 23 relatifs aux fêtes, et qui doivent être marqués par des saintes convocations et des rassemblements. Dans cette récapitulation sont citées les 3 formes de sacrifices consumés par le feu, c'est-à-dire les holocaustes, les offrandes végétales et les actions de grâce. La libation, qui est aussi mentionnée dans le texte, est une offrande sous forme liquide, souvent de l'huile ou du vin. Elle accompagne généralement les holocaustes. C'est une autre exigence qui est à rajouter à toutes les autres. Décidément, les innombrables rituels religieux imposés par la loi de Moïse n'en finissent jamais. De notre côté, ils me font apprécier d'autant plus l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. En effet, par son sacrifice, il a accompli parfaitement et une fois pour toutes absolument toutes les exigences, autant cérémoniales comme morales de la loi. Ça, c'est une bonne chose, me direz-vous, certes, mais je ne serai au bénéfice de l'œuvre que le Christ a accomplie que dans la mesure où je place véritablement ma confiance en lui et en lui seul. En effet, rajouter le petit Jésus à un panthéon de croyances ne sert à rien. Il faut accepter le Christ des Écritures comme son unique sauveur. Alors, sa justice et sa sainteté me sont attribuées, ce qui veut dire que je suis dans la même situation que si j'avais moi-même satisfait toutes les exigences de Dieu à mon égard. Quand j'y pense, c'est bien plus formidable que de gagner à la loterie nationale, car l'argent ne dure qu'un temps, au mieux, celui de ma vie, tandis que la félicité éternelle, comme son nom l'indique, n'a pas de fin. Je continue. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Bien que la liste des convocations saintes, c'est-à-dire des fêtes, soit terminée, ce n'est pas tout à fait fini. Le législateur ajoute à titre exceptionnel quelques détails supplémentaires qui concernent la manière de célébrer la solennité des cabanes et ce que cette fête représente et doit perpétuer. Ce rajout est justifié parce que la célébration des cabanes n'a pas encore été réglementée comme celle de Pâques, de la Pentecôte ou du Yom Kippour. Dans le nord de la Palestine, la fin de la récolte des olives, grenades et du raisin se fait en octobre. Les Israélites doivent couper des branches d'arbres chargées de beaux fruits et qui ont un riche feuillage pour s'ombrager. Des saules formant la charpente des cabanes qui sont dressées dans les cours des maisons, sur les places publiques et dans les rues, ce qui fait que tout le pays prend un air de fête. Le caractère de cette célébration est la joie, parce que les celliers et les greniers sont remplis par une riche récolte due à la bonté de l'Éternel. La phrase « Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant l'Éternel », l'Éternel, votre Dieu, exprime bien le caractère sacré de ce rassemblement du peuple et des réjouissances. La fête commémorative des cabanes sera célébrée pendant le millénium de Jésus-Christ. Je lis le passage. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venues attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se rendre et pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des peuples de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas la pluie. Le règne de 1000 ans du Seigneur sur cette terre est décrit en détail dans plusieurs livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, bien sûr, l'Apocalypse de Jean. Je finis le chapitre 23 du Lévitique. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse transmit aux Israélites les instructions concernant la fête de l'Éternel. Ces cabanes rudimentaires doivent rappeler aux Israélites la pérégrination de leurs ancêtres dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont vécu sous de simples tentes, sans autre abri contre vents et tempêtes, et surtout l'ardeur du soleil. Ce rappel aux souvenirs des futures générations aura aussi pour but d'établir un contraste entre le confort dont ils jouissent dans le pays béni que l'Éternel leur a donné et la situation difficile de leur aïeux. Le chapitre 23 du Lévitique nous donne beaucoup de renseignements sur les fêtes et rassemblements cultuels d'Israël prescrits par la loi de Moïse et qui doivent être strictement respectés. D'autres textes précisent les différents types de sacrifices qui doivent être faits à chaque occasion. Ces célébrations établissent un lien entre le passé du peuple d'Israël et son présent. D'une part, elles rappellent les événements fondateurs de leur histoire comme l'Exode, la traversée du désert et le don de la loi. Et d'autre part, elles sont un prétexte pour les Israélites de se réjouir à cause des récoltes agricoles abondantes que l'Éternel leur accorde. L'ultime signification de toutes les fêtes est réalisée dans l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix. C'est vrai que je me répète, mais il nous faut constamment garder à l'esprit que tout l'Ancien Testament a pour objectif de préparer le terrain, c'est-à-dire l'humanité, pour la venue du Seigneur, le Maître des lieux. Nous avançons pas à pas et arrivons maintenant au chapitre 24 du Lévitique, où il va tout d'abord être question des soins à donner aux lampes du chandelier, ainsi que la fabrication des 12 pains de témoignage qui doivent constamment être présents sur une table à l'intérieur du lieu saint du tabernacle. Ensuite, le texte va préciser le châtiment qui doit être infligé à un blasphémateur, ainsi que le principe de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ces nouvelles règles sont insérées entre les directives qui concernent la fête des cabanes et celles qui s'appliquent à l'année sabbatique. Ces ordonnances semblent pour le moins déconnectées les unes des autres. Ce style inhabituel pour nous est relativement fréquent dans les Écritures. L'ordre des sujets traités peut être surprenant, car il est rarement logique ou chronologique. Je commence maintenant à lire le chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. » Ces règles qui concernent les lampes du chandelier, ainsi que les suivantes qui parlent des pains, sont la répétition d'une ordonnance déjà donnée. C'est un peu logique, dans la mesure où il vient d'être question des récoltes parmi lesquelles le froment et les olives, d'où on tirait l'huile. Ces deux produits tenant une très grande place dans l'agriculture israélite. Le peuple doit utiliser de l'huile pure d'olive pilée, celle qui coule d'elle-même des fruits simplement foulés, mais non pressés, car elle est de qualité supérieure à celle obtenue par pression. L'huile pour le chandelier, ainsi que les pains, faisait partie des offrandes que les Hébreux faisaient à l'Éternel. Dieu désire en effet que ceux qui se disent son peuple soient à son service et participent de gaieté de cœur à son œuvre sur terre. Ce n'est pas que Dieu a besoin de nous, il peut évidemment pourvoir lui-même à l'huile et au pain, mais ce n'est pas la façon d'agir, car il souhaite notre collaboration. Il veut être en communion avec ses créatures. D'ailleurs, s'il nous a créés, c'est pour que nous marchions au même pas que lui. Aujourd'hui, les prodiges divins, genre très grand spectacle, sont plutôt rares. Si on tend l'oreille, on entend beaucoup de choses extraordinaires. Mais si on va voir sur place et qu'on essaye de rendre visite à une personne miraculeusement guérie, c'est souvent au cimetière qu'on doit aller. Il est vrai qu'il existe ici et là, de par le monde, des thaumaturges, des faiseurs de miracles, comme ce Philippin, dont j'ai vu un jour l'histoire dans la sélection du livre du Reader Digest. En état de transe, et parlant avec un fort accent allemand, il faisait effet peut-être toujours, des interventions chirurgicales extrêmement complexes, telles une opération sur un poumon, à la vitesse grand V, muni d'un simple couteau de cuisine. De plus, la plaie ne saigne pas et ne contraste aucune infection. J'en suis resté interloqué, car il ne semble pas qu'il ait la moindre supercherie. Et tout se passe exactement comme le journaliste le décrit. La seule explication plausible est que ce guérisseur est animé d'une puissance surnaturelle, ce qui ne veut pas dire que c'est Dieu. Je continue le texte du Lévitique. Aaron arrangera ses lampes devant le voile qui cache le coffre de l'arche de l'Alliance, dans l'attente de la rencontre, pour qu'elle brûle continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Cette huile de grande qualité brûle pratiquement sans fumée et quelqu'un veille toute la nuit pour alimenter les lampes. Chaque matin, les prêtres enlèvent les lampes pour les nettoyer, puis les replacent sur le chandelier. Elles sont rallumées, elles brûlent jour et nuit. Aaron, ayant été consacré grand prêtre, c'est lui le patron, et il est responsable pour que tous les éléments cultuels du tabernacle fonctionnent sans anicroche. Lui seul est habilité à diriger la préparation du chandelier. Les Israélites, même s'ils aiment l'Éternel, et qu'il animait de la bonne volonté, n'a pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Il tomberait sur le jugement de Dieu. Il faut être prêtre de la descendance d'Aaron pour assumer une fonction sacerdotale. Le tabernacle, et plus tard le temple, peut être comparé à l'un de ces pylônes de structure métallique qui soutiennent les lignes à haute tension. À sa base, il y a un écriteau qui prévient du danger mortel que court celui qui toucherait un fil, même tombé à terre. La sainteté de Dieu est comparable à l'électricité qui circule dans la ligne à haute tension, et c'est comme si devant son trône se trouvait un panneau qui dise « Défense d'approcher sous peine de mort ». Seul le grand prêtre en a le droit et uniquement pour le jour du grand pardon. De nos jours, les gens croient que la sincérité permet tout et excuse tout. Il n'en est absolument pas ainsi avec Dieu. Et les deux fils aînés d'Aaron en ont fait l'expérience quand ils ont été terrassés. Je ne peux entrer en relation avec mon Créateur qu'en obéissant à des règles précises qu'il a énoncées et qui, pour nous, sont dans le Nouveau Testament. Mais si je veux en faire à ma tête, tant pis pour moi. Sous l'ancienne alliance, la fonction des prêtres était nécessaire à cause des fautes du peuple d'Israël. L'Éternel a donc choisi certains hommes qui sont consacrés et approuvés par lui afin qu'ils puissent s'approcher de sa gloire au nom des Israélites. Le chandelier joue un rôle important dans le culte de l'Éternel. Fabriqué en or pur, il est partagé en sept branches qui partent d'une tige unique qui imite le bois d'amandier. Ces lampes sont le seul éclairage à l'intérieur du sanctuaire qui est la demeure de l'Éternel. La lumière qu'elles produisent a un sens fortement symbolique. Un jour, Jésus a dit aux Juifs qu'ils l'écoutaient. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » L'apôtre Paul aussi utilise la lumière dans ce sens quand il écrit aux croyants « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Comme Jésus est venu pour apporter la lumière de Dieu aux hommes, les croyants sont exhortés à faire de même. Au début de l'Apocalypse, sont sept chandeliers qui représentent sept types d'églises chrétiennes. Deux ne reçoivent que des louanges de Jésus, mais les autres ont toutes quelque chose à se reprocher. Choisissez donc avec soin où vous allez.